Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Deux heures d'infos entre 12h30 et 14h30 de débat, mais évidemment d'opinion aussi avec les auditeurs. L'info avec Amandine, bonjour jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, donc, Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme. La liste des départements où les élèves vont pouvoir enlever le masque à l'école, ils sont 47. Et puis les prix de l'énergie qui plombent le budget des Français. Jean Castex doit faire des annonces ce soir.
On reviendra justement sur la flambée des prix de l'énergie. Qu'est-ce que peut faire concrètement le gouvernement, quelles sont les marges de manœuvre? Et puis à 12h50, le pass sanitaire pour les 12-17 ans, est-ce bien raisonnable? Il est obligatoire depuis ce matin.
La question du jour sur RTL.fr, hausse du gaz, de l'électricité et des carburants, l'État doit-il bloquer les prix? Vous répondez oui à 58%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
On en profite, il fait beau aujourd'hui.
Oui, très beau même, hein, sur l'ensemble du pays, très ensoleillé pour tout le monde, ou presque, parce que le temps est plus nuageux avec du vent sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, l'extrême nord avec quelques gouttes possibles, et puis un petit peu plus de nuages également sur le piémont pyrénéen, mais pas grand chose. Côté température, un peu juste au nord mais chaud près de la Méditerranée. 16 cet après-midi à Nancy, 18 à Paris, 20 à Nantes, 21 à Bordeaux, 25 à Montpellier, 26 à Marseille.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc ce jugement dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. L'ancien président est condamné à de la prison ferme, un an de prison ferme, Cindy Hubert.
Oui, alors cela ne veut pas dire qu'il va dormir en prison ce soir puisque son avocat vient d'annoncer qu'il faisait appel, ce qui suspend toute décision. Le tribunal avait demandé que cette peine soit aménagée, qu'on lui pose un bracelet électronique. Il n'y aura donc pas de bracelet, mais cela n'enlève rien à la sévérité des peines tout au-delà des réquisitions. La justice a tenu à rappeler qu'on parlait de sommes astronomiques, 16 millions pour l'abus de confiance, 20 millions de financement illégal de campagne. Mais le tribunal a réservé ses mots les plus durs à Nicolas Sarkozy. Ce n'était pas sa première campagne, il a été alerté deux fois par des notes. Il savait que le plafond des dépenses allait exploser. Pourtant, il a réclamé de nouveaux meetings géants. La justice a donc choisi la peine maximale, un an de prison ferme. Une peine qui sera à nouveau discutée au procès en appel, sans doute pas avant 2023.
Cindy Hubert, en direct du Palais de justice de Paris pour RTL. Bonjour Gilles Platré.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Vous êtes vice-président des Républicains. Une réaction après cette condamnation?
Ouais, c'est d'abord de la tristesse, hein, c'est l'amitié qui parle, que on a le sentiment que le couperet tombe très régulièrement sur la tête du président Sarkozy. Donc c'est d'abord une réaction d'amitié. On continue de croire que la justice trouvera le chemin de la vérité. Un appel a été interjeté ou va être interjeté. Et à partir de là, j'espère qu'on arrivera à une situation un peu moins ubuesque, parce que finalement, quand on parle de Nicolas Sarkozy, quand un procureur demande une peine, le juge va toujours au-delà de cette peine. C'est quand même ce qui nous frappe.
C'est une justice politique, c'est ce que vous dites ?
Je ne dis pas ça. Vous savez, une justice politique, c'est dans un contexte institutionnel bien précis. On n'y est pas. Je dis simplement qu'on est quand même frappé qu'à chaque fois, quand il s'agit de Sarko, les juges sont plus sévères que les procureurs. Moi, j'aimerais que les juges soient plus sévères que les procureurs lorsque des petites frappes arrachent le sac d'une vieille dame ou créent des faits de violence. Donc voilà, on est juste frappé de ça. Et on attend maintenant l'appel pour que justice soit vraiment faite. On a quand même le sentiment que c'est la sévérité qui triomphe, avant peut-être même la recherche de la vérité. Donc c'est quand
et
même
pour prolonger la question de Amandine, vous ne parlez pas de mots acharnement, mais est-ce qu'au fond de vous, vous avez le sentiment qu'il est une cible privilégiée, qu'il y a un acharnement de la justice, comme certains le disent, en tout cas ses supporters, acharnement contre Nicolas Sarkozy?
Moi, ce qu'on peut dire peut-être d'une manière objective, parce que c'est toujours compliqué hein, quand l'amitié parle d'être objectif, mais c'est que les relations de Nicolas Sarkozy avec la justice ne sont pas d'une sérénité souveraine depuis longtemps. Et qu'à ce titre-là, on se souvient très bien d'un certain nombre d'épisodes lorsqu'il était aux affaires, à l'Élysée, et on a quand même le sentiment qu'une partie des juges déteste cet homme, mais le déteste profondément. Et on a toujours
il règle ses comptes, c'est ce que vous sous-entendez.
On a toujours peur que cette détestation puisse influencer sur le jugement, surtout lorsqu'il est plus sévère que la réquisition du procureur. Et c'est ça la grande question que pose cette affaire. Après, encore une fois, je ne suis pas dans le fond du dossier. Donc on peut toujours dire la justice a fait son travail. Mais on doit s'interroger aussi sur le contexte. Il y a un contexte anti-Sarkozy très fort chez un certain nombre de juges. Et donc, on peut donc s'interroger lorsque la peine prononcée est plus forte que celle demandée par le procureur.
Merci beaucoup. Merci Gilles Platré d'avoir été en direct avec nous sur RTL, vice-président, je le rappelle, des Républicains. La fin du masque à l'école à présent pour les élèves de primaire, ce sera dès lundi. Et on a désormais la liste des départements concernés, 47, tous ceux où le taux d'incidence est sous les 50 pour 100 000 habitants, et ce depuis au moins 5 jours. C'est le cas de la Meurthe-et-Moselle où l'on retrouve Samuel Goldschmidt. Vous êtes devant une école de Nancy où l'on a hâte.
Plutôt, en tout cas, l'information a circulé à toute vitesse ce matin parmi les parents déjà.
J'espère pour eux, parce que c'est compliqué, quoi. Ils y pensent pas forcément, en plus. Le matin, quand on part, c'est l'oubli du masque et voilà, quoi.
Est-ce que vous savez, vous êtes au courant?
Oui.
C'est comment le masque dans la classe?
C'est embêtant, c'est à cause des lunettes.
Alors mon fils est au courant et il est très content. Même pour moi, je suis contente. Hein.
Il y a peut-être une nuance chez les enseignants.
Les enfants sont ravis, on est contents pour eux. Nous, on s'inquiète un petit peu plus sur les collègues fragiles, voir si ça va remonter au niveau des chiffres de contamination. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner, en espérant qu'un jour ce sera nous.
C'est ce doute-là qui subsiste sur les éventuelles contaminations. Isabelle Nicolas est co-secrétaire départementale du SNUIPP.
C'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, au niveau du risque épidémiologique, il y a aussi des enseignants, notamment les plus fragiles, qui vont forcément être inquiets. Mais voilà, le virus est toujours là, donc il y a quand même une inquiétude qui peut être là, même si, évidemment, l'idée de retourner à la normalité est forcément agréable.
Reste à faire circuler l'information officiellement, car il y a très peu de temps d'ici à lundi matin.
Et Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL. Le masque reste obligatoire dans 54 départements et partout hein, pour les personnels, les collégiens et les lycéens, les adolescents, les 12-17 ans qui depuis ce matin doivent présenter eux aussi un pass sanitaire pour aller au restaurant, au cinéma ou encore pour faire du sport.
Est-ce vraiment nécessaire ce pass sanitaire pour les 12-17 ans alors que l'épidémie recule? Ce sera le deuxième débat d'RTL à 12h50.
Les 260 personnes qui ont reçu une dose de vaccin périmée dans la Loire vont, elles, devoir se refaire vacciner. C'est ce qu'annonce l'Agence régionale de santé à Gatlandais.
Oui, ces doses périmées ne présentent aucun danger pour ces personnes qui les ont reçues, nous dit la NSM. En revanche, quand elles sont injectées plus de 48 heures après leur date de péremption, elles sont moins efficaces. L'ARS va donc contacter les 260 personnes concernées dans les plus brefs délais pour qu'ils aillent se refaire piquer. Cela concerne dans le détail 106 adolescents vaccinés dans leur collège et 154 adultes qui ont reçu ces doses lors d'opérations mobiles. 8 communes de la Loire sont concernées, dont Saint-Étienne, Firminy ou Saint-Chamond.
Et comment ils se sont retrouvés à recevoir des doses de vaccins périmés?
En fait, la personne qui les a décongelés a, semble-t-il, oublié d'écrire la date de décongélation sur les flacons. Résultat, ces doses Pfizer qui se conservent 30 jours ont été utilisées jusqu'à 2 semaines après la date limite. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes appelle ses opérateurs à plus de vigilance. Elle a aussi diligenté une inspection pour comprendre comment cette erreur a pu se produire.
Explication signée à Gatlandais. La hausse des prix de l'énergie. Jean Castex doit présenter ce soir une série de mesures. Il y a urgence, la preuve avec les derniers chiffres de l'inflation, elle accélère, plus 2,1% sur un an au mois de septembre. Martial Youn a l'impression que c'est à chaque jour ces mauvaises nouvelles.
Oui, et ce n'est sans doute pas terminé parce que quand on interroge Bercy, on s'attend à une hausse des prix du gaz du même niveau, environ 12% en novembre et en décembre. Le 1er février prochain, il y a la hausse des tarifs de l'électricité. Et là aussi, Barbara Pompili s'attend à une augmentation de 12%, elle l'a dit ce matin. C'est pour ça qu'une des pistes qui pourrait être annoncée par Jean Castex ce soir, c'est de décaler cette hausse dans le temps, c'est-à-dire au moment où la facture de chauffage est moins lourde pour les ménages. Printemps, début été par exemple. Mais vous avez d'autres hausses qui se profilent pour ce printemps. Vous avez l'habillement déjà. Le prix du coton est au plus haut depuis 10 ans en ce moment. Ça peut se traduire par des augmentations de 10 à 15% sur les chaussettes, les pulls ou les bonnets. Et puis enfin, les négociations dans la grande distribution vont s'achever fin février et dans la foulée, la hausse des matières agricoles actuelles va se retrouver sur le prix des pâtes, des plats cuisinés ou encore des viandes.
Martial Youn, chef du service économie d'RTL.
C'est l'un des faits divers les plus mystérieux de ces dernières années, la tuerie de Chevaline.
9 ans après les faits, reconstitution aujourd'hui, mais sans accusé, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé, qui a tué cette famille britannique et un cycliste. Frédéric Perruche, vous êtes sur place pour RTL. Que va-t-il se passer et surtout, quel est l'intérêt ?
Écoutez, selon les mots de la procureure d'Annecy, il s'agit d'une remise en situation, autrement dit d'un déplacement sur la scène de crime, un parking isolé bordé de sapins sur les hauteurs de Chevaline, au bout du lac d'Annecy, un déplacement des enquêteurs, du juge et de plusieurs témoins, dont le cycliste anglais William Brett Martin, qui le premier a découvert le massacre et a donné l'alerte. Mais bien évidemment, les deux seuls rescapés de cette tuerie, Zainab et Zina, les filles du couple à Lily, 13 et 16 ans aujourd'hui, ne seront pas présentes. Auditionnées récemment dans ce dossier, leur témoignage n'a permis aucune avancée. L'objectif de cette journée, c'est de reprendre la chronologie, réinterroger les témoins dans le contexte du drame, au plus près de la réalité, dans les mêmes conditions climatiques et à la même heure, entre 15 et 16 heures. Le juge veut reconstituer la scène et l'environnement du crime à la minute près pour chaque protagoniste, afin d'avoir une vue précise et globale de la situation et peut-être découvrir un élément, un détail qui aurait pu leur échapper à l'époque. La route d'accès est évidemment bloquée jusqu'à demain pour laisser travailler discrètement les enquêteurs et tout survol est interdit.
Frédéric Perruch en Haute-Savoie pour RTL. Il y a du foot ce soir après la Ligue des Champions, la Ligue Europe. Marseille accueille les Turcs de Galatasaray. Coup d'envoi à 21h. Ce sera à voir sur W9. À suivre également Lyon-Brøndby, Real Sociedad Monaco. Et puis en Ligue Europa, conférence. Rennes, sachez-le, se déplace chez les Néerlandais du Vitesse Arnhem.
Premier débat dans une seconde, la flambée des prix de l'énergie. Que peut faire concrètement le gouvernement? Quelles sont les marges de manœuvre? Jean Castex intervient ce soir.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est là pour 1344 euros.
D'accord. 30% de plus.
Énorme. 300 euros sur 1000 litres. On est prêt à la gorge et puis on dépense repos sur autre chose. Sinon, vous tenez pas l'hiver.
L'objectif ce mois-ci pour nous, c'est d'être seulement à moins 500 là, au moment de la paye. C'est pas zéro, c'est moins 500.
Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français? C'est le casse-tête du moment face à la hausse des prix de l'énergie, gaz, électricité, carburant, tout augmente. Et en même temps, Jean Castex prendra la parole ce soir pour présenter une série de mesures. Mais concrètement, que peut faire vraiment le gouvernement? Quelles sont ses marges de manœuvre? C'est le premier débat d'RTL Bindi. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Je voudrais vous faire entendre plusieurs candidats à la présidentielle. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français, la principale préoccupation. Et clairement, le sujet s'invite hein, dans cette campagne. On écoute Marine Le Pen et vous nous direz dans quelle mesure le gouvernement ou pas peut faire ça. Écoutez.
On assiste aujourd'hui à une situation où les Français vous disent « Bon, il va falloir que je choisisse entre manger et me chauffer ». Il faut que l'État absolument agisse pour empêcher cette augmentation sur les taxes qui sont prélevées par le gouvernement. L'essence, c'est 60% du prix à la pompe qui représente des taxes. Il y a aussi une autre proposition que je serais amené à faire sur l'encadrement des abonnements concernant le gaz et l'électricité. Et il est parfaitement possible de réclamer un encadrement de ces abonnements, ce qui aujourd'hui n'est pas fait.
Marine Le Pen ce matin au micro RTL de Marie Mollet. Mathieu Plane, agir sur les taxes, on a beaucoup entendu par exemple supprimer la TVA. C'est possible ça et quel est l'effet?
Alors, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage politique à faire là-dessus. Baisser la TVA, par exemple, sur l'énergie, hein, typiquement, effectivement, ça pourrait diminuer les prix à la pompe, hein, mais effectivement, le gouvernement se priverait de recettes fiscales, donc il faudrait trouver des financements par ailleurs, ou alors ça créerait du déficit. Donc c'est toujours une possibilité. Le problème, c'est est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est permanent, et quels sont les effets réellement à attendre en termes de montant par ménage. On voit qu'en plus, tous les ménages sont pas à la même enseigne. Hein. Tout le monde se chauffe pas forcément au fioul, tout le monde prend pas sa voiture, le pouvoir d'achat est pas le même selon les personnes. Donc le coût budgétaire peut être élevé et ça peut manquer d'efficacité en fait. Vaut mieux peut-être cibler les ménages les plus en difficulté ou ceux qui ont un poids de l'énergie le plus fort dans leur budget.
Mais on a le sentiment quand même que c'est quasiment la seule marge de manœuvre possible, en tout cas c'en est une sérieuse, de baisser le poids des taxes. Alors c'est 35% pour l'électricité de taxes, hein, pour la facture de l'usager, et c'est 27% pour le gaz, c'est un peu moins quand même que pour un litre d'essence, 35 et 27%. Là, il y a possibilité quand même de baisser ces taxes-là pour que l'usager paye moins cher.
Alors il y a, oui, vous pouvez toujours les baisser, les taxes, mais souvent cette ressource-là va être utilisée par ailleurs pour financer d'autres mesures, notamment sur les questions d'investissement dans la transition écologique. Donc temporairement, vous pouvez les baisser. Mais si vous les baissez, forcément, vous allez avoir une dette ou un déficit qui va être plus important.
Non, mais j'entends bien, mais ce qu'on disait, pour nous, ce qui est intéressant,
vous pouvez toujours
c'est
les baisser, après, c'est comment vous le payez.
L'usager paye moins cher. Ce soir, Jean Castex lui a parlé. Comment l'usager paye moins cher ? La seule marge de manœuvre, c'est de baisser la taxe ou alors de cibler, comme vous le dites, les personnes qui sont les plus en difficulté financièrement en France.
On voit bien que le seul levier aujourd'hui pour le gouvernement sur lequel il peut agir, c'est la fiscalité. C'est évident. D'ailleurs, c'est les mesures qui ont été décidées, alors pas sur l'énergie, mais post-crise des Gilets jaunes, qui était quand même la question centrale du pouvoir d'achat, notamment avec la taxe carbone, je vous rappelle, qui était censée augmenter, qui n'a pas été augmentée. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été une redistribution de pouvoir d'achat, mais l'idée, à la base, était notamment suivie par le gouvernement de fiscaliser plus ce qui polluait, notamment les prix de l'énergie et de l'essence. On voit qu'il y a eu un effet très très fort, une contestation très forte face à ça, et que le gouvernement est revenu dessus. Donc c'est vrai que il pourrait baisser les taxes, mais on voit bien que ça pourrait être que temporaire, que la plupart des taxes qui sont notamment sur les produits énergétiques qui polluent le plus sont souvent les taxes les plus élevées. La question qui se pose, c'est comment on peut faire si on les baisse, et est-ce que le gouvernement pourrait donner une orientation durable là-dessus? Je crois pas. Je pense que la question fondamentale, c'est comment redonner du pouvoir d'achat aux ménages, à travers aussi la question de l'augmentation des salaires.
Alors justement, Mathieu Plane, le SMIC augmente demain, plus 2,2%, c'est 35 euros brut par mois. Est-ce qu'il faudrait plus, un vrai coup de pouce? Ça, ce serait une bonne idée?
La question doit se poser. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir qu'en économie, à la fin, quelqu'un paye. Donc c'est vrai que redonner du pouvoir d'achat aux ménages, c'est une bonne idée par la baisse de fiscalité, mais ça veut dire aussi que forcément ça fera des déficits et de la dette, et donc peut-être ça sera à côté d'autres impôts qui vont augmenter. Ou alors, l'autre question, c'est augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, ça pose la question de la compétitivité des entreprises et leur capacité à les augmenter.
Si je vous écoute,
mais
on voit qu'il y a des
on n'est pas très bien.
Non, les usagers qui vous écoutent, ils se disent, on va payer plus cher, on va gagner moins.
Non, alors d'abord, il y a quand même le fait qu'on est dépendant énergétiquement, très clairement. C'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie, il est lié à la hausse des prix de l'énergie au niveau mondial. C'est-à-dire le prix du pétrole a doublé, on voit les prix de l'électricité ou du gaz sur les marchés de gros augmenter. Et donc, on est dépendant de ces chocs extérieurs. Donc ça, c'est vrai. Donc il faudrait trouver des façons d'amortir les chocs externes. Et donc, c'est vrai que le chèque énergie est une réponse, mais on voit que ça concerne que 6 millions de ménages au final. On a plus de 20 millions de ménages qui sont pas du tout concernés par le chèque énergie. Et donc, il y avait des modulations qui existaient à l'époque, par exemple, sous Jospin. On appelait ça la TIPP flottante, qui était des mécanismes de régulation de fiscaux, mais qui étaient très compliqués. Donc, les gens comprenaient rien. Et qui ont été abandonnés. Donc, on a déjà essayé de faire des choses. Mais malgré tout, on voit que la volatilité des prix énergie est un vrai casse-tête pour les politiques, parce que les ménages s'aperçoivent tout de suite et ça impacte tout de suite le pouvoir d'achat.
Merci beaucoup Mathieu Plane, désolé on est un peu pris par le temps. Cette journée spéciale en tout cas pouvoir d'achat se poursuit sur RTL. Page spéciale ce soir entre 18h et 20h, merci à vous d'avoir été avec nous.
Dans une seconde, le débat sur le pass sanitaire, bien évidemment, est-ce qu'on en fait trop? À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Chacun son tour, désormais les ados doivent aussi présenter leur passe sanitaire.
Le passe sanitaire désormais obligatoire pour les 12-17 ans.
Et si le recours au passe sanitaire était maintenu jusqu'à l'été prochain, c'est le souhait du gouvernement alors qu'il devient dès ce matin obligatoire pour les ados de plus de 12 ans.
La fin du passe sanitaire, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour demain et pourtant l'épidémie semble reculer. Tous les indicateurs ou presque sont au vert, même si les chiffres repartent à la hausse dans certains départements. Alors en fait, c'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Agnès Ricaribon.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du SAMU du Val d'Oise. Il est vraiment nécessaire ce pass sanitaire pour nos ados?
Protéger nos enfants est une priorité et dans la balance bénéfice-risque, on a suffisamment de données scientifiques pour dire que la vaccination est bénéfique pour les adolescents.
Alors, je voudrais vous faire écouter la présidente de la Société française de pédiatrie, Christelle Graleghen, qui était ce matin l'invitée d'RTL. Elle est plutôt sceptique. Écoutez.
C'est sûr qu'à ce stade de la pandémie, on a l'impression qu'on arrive un peu après la bataille. Il faut arrêter de stigmatiser les enfants, les adolescents, comme moteurs de cette pandémie. La dynamique de la pandémie, on l'a vu, elle a explosé en plein été alors que toutes les écoles étaient fermées. Je pense qu'on a déjà beaucoup, beaucoup sollicité la jeunesse pour lutter contre cette pandémie et que maintenant, il faut les laisser reprendre leur vie d'enfant.
Agnès Ricard-Ribon, la Société française de pédiatrie, dit notamment qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont empêchés du coup de faire du sport. Est-ce que entre ne pas se faire vacciner et puis être puni de faire du sport, le choix il n'est pas vite fait?
Alors, je partage une partie, il faut pas stigmatiser les enfants, on est bien d'accord, mais ce qui a le plus impacté les enfants, et notamment psychologique, ce sont les fermetures de classe, les fermetures d'école à partir du moment où il y avait un cas positif. Et là, les indicateurs sont bons, c'est vrai, donc on peut relâcher une partie des mesures barrières, mais pourquoi les indicateurs sont bons? C'est justement parce qu'il y a eu une vaccination. Alors, le meilleur moyen de protéger nos enfants, c'est effectivement de vacciner les parents. Le moyen de protéger les enfants inférieurs à 12 ans, c'est de protéger aussi les grands frères, grandes sœurs, et pour permettre d'avoir une école qui se perdure et qu'on n'ait pas les conséquences psychologiques de la fermeture des écoles. Et le fait que le froid revienne, où on va être un peu plus en milieu intérieur, présente quand même un risque de rebond de l'épidémie. On ne peut pas complètement l'exclure. Et plus le virus circule, plus il y a un risque d'émergence de variants, ce qu'on veut à tout prix éviter.
Alors pour les enfants en dessous de 18 ans, il y aurait simplement 13 mineurs qui seraient décédés depuis le début de la pandémie. 13 mineurs simplement. C'est dire si cette maladie touche assez peu, de manière définitive, cette population-là.
C'est exact. Les formes graves sont peu fréquentes, mais quand ça touche votre enfant, c'est 100% pour vous. Et,
mais il y a un risque aussi dans le vaccin, et c'est 100% aussi.
Oui, mais la balance bénéfice-risque, elle n'est pas en défaveur du vaccin, loin de là. Et puis, on ne faut pas s'arrêter qu'à la mortalité. Il faut s'arrêter aussi à la morbidité, et notamment au Covid long qu'on commence à observer chez les enfants, qui entraîne aussi des conséquences médicales et psychologiques. Il n'y a pas que la mortalité.
Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas envie de faire vacciner leurs enfants, qui ont peur de faire vacciner leurs enfants, parce que leurs enfants ne sont pas en danger. Parce qu'il y a toujours un risque lorsqu'on fait un vaccin et qu'ils n'ont pas envie de prendre ce risque.
Alors, vous avez raison, les gens ont peur. Et ils ont peur pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations ou d'interprétations d'informations qui ne sont pas tout à fait exactes. On a quand même beaucoup de données scientifiques mondiales sur la sécurité de ce vaccin chez les enfants. Et par contre, on ne parle pas assez lorsque les enfants sont touchés, et on a des enfants hospitalisés, on a quand même quelques formes graves, des impacts que cela donne. Et encore une fois, dans la balance bénéfice-risque, le risque d'avoir le Covid est supérieur au risque lié à la vaccination. On ne dit pas que la vaccination présente zéro...
Non, mais on peut avoir le Covid pour un enfant, mais il n'aura pas de conséquences. Bien sûr qu'un enfant peut avoir le Covid, mais les conséquences seront très légères. Vous dites la balance bénéfice-risque, elle n'est pas partagée, et notamment par beaucoup de parents, cette analyse que vous faites.
La balance bénéfice-risque, elle est en faveur de la vaccination, parce que quand on prend tous les indicateurs, et pas seulement la mortalité, l'hospitalisation, les Covid longs et les conséquences médicales et psychologiques des fermetures de classe quand il y a un enfant positif. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces problématiques et pas uniquement les formes graves.
Merci beaucoup Agnès Ricard-Ribon d'avoir été en direct avec nous, directrice, je le rappelle, du SAMU du Val d'Oise.
Sujet qui pourra faire évidemment parler les auditeurs dans une seconde. Le rappel des titres, et les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
RTL Midi. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.